Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bilivan Lukumba pour le journal.
Sur une initiative de l'ONG Reporters sans frontières, des candidats à la présidence de la République s'engagent à soutenir la liberté de la presse. C'est en marge de la célébration ce 2 novembre de la journée de lutte pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. L'élément que nous vous proposons en ouverture de ce journal. Nous vous faisons également le point sur le déploiement du matériel électoral dans la province de l'Ituri. Le secrétariat exécutif provincial parle des 70% déjà du matériel déjà déployé. Plus de précisions à suivre dans le cours de cette édition. Dédé Moupassa, député national, est celui que nous recevons comme invité. C'est après sa participation à une rencontre sur les flux financiers illicites à Nairobi avec les parlementaires africains. Il nous en parle en fin de ce journal. Auditeurs de Radio Okapi, merci de votre choix à vous informer sur cette fréquence. Nous vous en souhaitons excellentes conditions d'écoute et bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Célébration ce jeudi 2 novembre de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À Kinshasa, 10 engagements solennels ont été signés à Kinshasa par certains candidats à l'élection présidentielle de 2023 pour soutenir la liberté de la presse en RDC. Cet acte d'engagement est l'œuvre de l'ONG Reporters sans frontières. C'était au cours de la cérémonie de la présentation du rapport 2023 de l'ONG Journalistes en danger sur la liberté de la presse en RDC. Au cours de la même activité, une motion de soutien au journaliste Stanny Boujakera par des associations professionnelles des médias a été lue. C'était en présence de plusieurs personnalités et d'autres professionnels des médias. Grâce à Mzati pour le reportage.
Dans cette motion lue par le président de l'UNPC section de Kinshasa, les organisations professionnelles des médias exigent la libération immédiate et sans condition de Stanny Boujakera car, selon elles, le confrère est arrêté arbitrairement et ne doit pas servir de bouc émissaire dans l'affaire non encore élucidée du meurtre de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Jean-Marie Kassamba.
Parce que la liberté de presse est indispensable à la démocratie. Parce que les charges retenues contre notre confrère sont fantaisistes. La place du journaliste n'est pas en prison, mais dans sa rédaction.
Une autre étape importante de la cérémonie est l'appel au candidat président de la République en faveur de la liberté de la presse. Parmi des engagements à prendre, favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur des médias. Adla Robulokwes, enseignant à l'IFASI, qui nous présente d'autres engagements.
M'abstenir de toute pression contre des journalistes et condamner systématiquement et publiquement les tentatives de discrédit et autres attaques verbales provenant d'acteurs politiques et en particulier émanant des membres de mon parti et de mon administration.
Cet acte d'engagement a été signé notamment par les représentants des candidats Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Dr Denis Mukwege.
La liberté de la presse se porte bien en RDC aujourd'hui qu'hier. Affirmation du gouvernement congolais en réaction au rapport de l'ONG Journalistes en danger, JED, qui présente les statistiques faisant état de 523 cas d'attaques diverses contre la presse durant le premier mandat de Félix Tshisekedi, donc 88 en 2023. Au cours d'une cérémonie de la présentation de ce rapport, ce jeudi à Kinshasa, à l'occasion de la journée mondiale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, le gouvernement congolais appelle les journalistes au strict respect de leur code d'éthique et des déontologies professionnelles et réitère ses efforts à promouvoir la liberté de la presse. On écoute la réaction du ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, faite par son directeur de cabinet, Nicolas Lianza Likwale, au micro de Grâce Amzati.
Ici est le cadre idéal d'affirmer que la liberté de la presse dans le pays démocratique du Congo se porte mieux aujourd'hui qu'il y a des années. Et les résultats le démontrent, bien que les statistiques du rapport nous présentées datent que sur le quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certes, beaucoup doit être fait et beaucoup sera fait. La liberté de la presse ici et ailleurs est un processus. Et ce processus se fait avec l'accord et la participation de tous les acteurs du secteur. Il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République démocratique du Congo juge inopportun de la part de cette association de faire une mauvaise publicité sur la sécurité du journaliste alors que beaucoup a été fait, notamment dans la mise en place des systèmes d'alerte via des groupes WhatsApp dont JED participe de manière permanente. Il est bien de dire des choses qui ne fonctionnent pas, il est aussi mieux de dire ce qui ont fonctionné.
En Ituri, plus de 70% de matériel de la CENI sont déjà déployés dans les différentes antennes locales. Son secrétaire exécutif provincial affirme que les préparatifs avancent bien en dépit des défis sécuritaires et le délabrement des infrastructures routières. Tout sera prêt, rassure-t-il, avant les élections générales du 20 décembre prochain. Isaac Remoyope.
Depuis des semaines, des vols commerciaux venus de Kinshasa et de Kisangani acheminent les matériels de la CENI à Bounia à prévision des élections du 20 décembre, affirme le secrétaire exécutif provincial de l'organe électoral. Ils sont ensuite envoyés dans les chefs-lieux des territoires aux antennes de la CENI en attendant d'être dispatchés le moment venu dans les bureaux de vote, ajoute Jimmy Anga. Selon ces derniers, d'autres matériels sont transportés directement par avion dans les antennes, notamment à Aru et Mahagi à cause des mauvais états des routes. La CENI Ituri utilise également ces véhicules pour accéder aux localités très enclavées, a ajouté le secrétaire provincial de la CENI. Parmi ces matériels, les dispositifs électroniques de vote ou machines à voter, les kits des bureaux et des opérations de vote. Le bureau provincial de l'organe électoral indépendant indique qu'aucun obstacle majeur n'est enregistré jusque-là. Et c'est malgré la présence des combattants des différentes milices qui circulent avec leurs armes principalement dans les territoires de Djougou, Irumu et une partie de Mahagi et Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Kivu et le processus électoral, certains habitants du territoire de Kabaré, groupement de Bougoré, ont manifesté ce jeudi 2 novembre. Ils disent ne pas comprendre comment leur nom ne se retrouve pas sous les listes des électeurs affichées par la CENI alors qu'ils s'étaient fait enrôler en bonne et due forme. Autre sujet de leur manifestation, c'est la diminution, selon eux, du nombre des bureaux de vote dans leur circonscription électorale. Suivez leur plainte.
Nous, population du groupement de Bougoré, avons constaté que plus de 65% des personnes qui se sont enrôlées dans différents centres disséminés sur l'étendue du groupement ne se retrouvent pas sur les listes électorales provisoires de la CENI. Le nombre de centres et bureaux de vote ont été catastrophiquement réduits. Le centre de Tiredja a enrôlé un effectif total de 9958 personnes, mais à notre grande surprise, celle 3612 ont été retenus dans le centre d'enrôlement de Kachéni, qui a enrôlé 4365 électeurs, mais sur la liste provisoire de la CENI, seuls 1123 électeurs ont été retenus. La population du groupement de Bougoré vous demande de procéder à la restauration et à la publication immédiate du fichier électoral du groupement de Bougoré en respectant le nombre exact des personnes enrôlées, au rétablissement des centres et bureaux de vote, à rendre disponible au moins une machine par groupement afin de permettre à ceux-là dont les cartes sont effacées et ou perdues d'obtenir facilement le duplicata.
Le chef d'antenne de la CENI à Kabaré dit transmettre ses revendications et que la solution sera trouvée dans quelques jours. Au lendemain de la publication du nouveau gouvernement provincial du Kasaï oriental, les ministres provinciaux débarqués de l'équipe gouvernementale conditionnent l'opération de remise et reprise au paiement de leurs arriérés de salaire. Dans une lettre adressée au gouverneur de province intérimaire, les ministres sortants dénoncent également les actes d'intimidation et des menaces dont ils sont victimes depuis la prise de fonction du gouverneur de province intérimaire. François Mutebawani, commissaire général en charge de la communication et médias et porte-parole des ministres sortants, a été joint au téléphone par Esther Dalafina.
Nous sommes un groupe de membres du gouvernement sortant du Kasaï oriental, injecté par Madame la gouverneure intérimaire. Il n'y a que la réclamation de nos indemnités, les sorties, les frais d'installation, les arriérés, des salaires de 6 mois, les indemnités de logement de cette année ici, c'est-à-dire les indemnités de logement de 10 mois. Comme nous connaissons tout ce qui s'est toujours passé, c'est ainsi que nous voulons, à ce qu'on s'accute de leur devoir de pouvoir nous donner nos arriérés lentes. Nous serons prêts de pouvoir procéder à la remise et reprise.
Contacté, le chargé de communication du gouverneur de province intérimaire affirme que les ministres provinciaux ont reçu 2 mois de salaire en une fois dès la prise de fonction de l'autorité provinciale. Il renvoie les ministres auprès du gouverneur, mis en accusation par l'Assemblée provinciale pour réclamer leurs frais d'installation. Pour le chargé de communication, conditionner la remise et reprise au paiement des indemnités est un geste de mauvaise foi et la loi sera donc appliquée. En plus bref, dans le Nord Kivu, un calme précaire règne ce jeudi matin sur différentes lignes de front opposant les forces armées de la RDC, les groupes armés locaux aux rebelles du M23. C'est notamment dans la zone de Kibumba et Buhumba où les tirs ne sont pas entendus depuis mercredi soir. Toutefois, selon des sources sécuritaires, un mouvement de renfort et des positions des rebelles est noté sur l'axe Kibumba ainsi que dans la zone de Kalake en plein parc national de Virunga. Toutes nos sources en conviennent que la situation reste tendue et préoccupante. Le constat général, c'est que les troupes sont en alerte à maximum. Rappelons que pendant près de 6 jours consécutifs, des violents combats d'intermittents ont opposé les FRDC et la coalition des groupes armés locaux aux rebelles du M23 dans la zone de Kibumba et Buhumba. Toujours dans la même province, territoire des Lubéros à présent, recrutement des jeunes au sein de la PNC, plusieurs volontaires qui étaient pourtant prêts à s'enrôler menacent de boycotter le processus. C'est à la suite, disent-ils, des exigences des frais de casier judiciaire fixés à $25 par les autorités policières, montant qu'ils pensent exorbitant au regard de leur coût de vie. Pour motiver ces volontaires à servir la nation, un élu de Lubéros, après un plaidoyer sur ce cas, se réjouit des assouplissements obtenus de la part des autorités policières. Ces dernières ont revu ses frais à la baisse de $25 à $10. Le député provincial Jean-Paul Lumbulumbu explique au micro de Denise Lukeso.
Dans le territoire de Lubéros particulièrement, cet appel a reçu un écho favorable, chez les jeunes surtout, parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont venus de Mangourjipa, de Luofu, de Outwe, de Kamandi, de Wukununu, de Lunyasenge, de Bingi, de Kirumba, de Kaina, de Kanyabayonga, qui sont partis se présenter comme des volontaires à Lubéros pour se faire enrôler dans la police. Le casier judiciaire a été fixé à un prix exorbitant pour cette population-là vulnérable. $25 pour un jeune sans travail, ce n'est pas chose facile. Et je suis heureux d'informer les jeunes de Lubéros, ceux qui veulent s'enrôler dans l'armée, que nous venons d'obtenir un compromis avec les autorités policières. Au lieu de payer $25, désormais vous allez payer $10 seulement pour l'obtention du casier judiciaire. Nous pensons que de la sorte, nous allons encourager les jeunes à s'enrôler dans la police, non seulement à Lubéros, mais également dans les autres territoires où nous avons besoin d'avoir de jeunes intellectuels dans notre police, et c'est là pour redorer l'image de notre police.
La ville de Johannesburg en Afrique du Sud abrite du 2 au 4 novembre le forum sur la GOA, la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. L'événement va réunir une délégation de haut niveau des États-Unis et des ministres des commerces des pays d'Afrique éligibles à la GOA. Sauf imprévu, la RDC devra être représentée par une délégation du ministère du Commerce extérieur conduite par le ministre Jean-Lucien Boussa. Les contours et l'avenir de la GOA seront au cœur des enjeux de ce forum. Plus de détails avec Cynthia Bachizé.
Vieille de 2 décennies, la GOA est cette loi américaine qui permet que des produits africains soient exportés vers les États-Unis sans payer les droits de douane. Cette loi est au cœur de la politique économique et de l'engagement commercial des États-Unis vers l'Afrique. De l'avis du ministre du Commerce extérieur, la GOA a permis d'accroître le volume de commerce entre la RDC et les États-Unis. Jean-Lucien Boussin.
Lorsqu'on a été admis à la GOA, nous étions à un niveau d'exportation au-delà des $600 millions américains. 600 millions, c'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup lorsqu'on est parti d'un chiffre, moins que cela. Mais c'est rien lorsqu'on prend la dimension nationale, la dimension internationale du commerce. Okay? Et lorsque nous sommes sortis de la GOA, l'année où nous reprenons, nous étions à $30 millions seulement de nos exportations vers les États-Unis. Avec le retour à la GOA, nous en sommes arrivés à plus ou moins maximum $300 millions américains.
Mais la GOA expire en 2025. Ce forum qui s'ouvre ce 2 novembre en Afrique du Sud va servir de cadre pour évaluer les progrès réalisés à ce jour, discuter de la possibilité d'améliorer mais aussi du renouvellement de la GOA jusqu'en 2045, tel que souhaité par les pays africains, notamment la RDC.
Actualité internationale.
Le gouvernement ougandais a fustigé mercredi l'annonce des États-Unis de retirer le pays d'un accord commercial en raison des violations des droits humains, affirmant que ces décisions nuiraient à ses agriculteurs et petites entreprises. Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 l'Ouganda ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du African Growth and Opportunity Act AGOA. Après 6 années passées à la tête de la Zambie, l'ancien président Edgar Lungu ne cache plus ses intentions de revenir en politique. Dernier fait en date, le discours qu'il a tenu lors d'un hommage à un ancien président zambien décédé en 2014 et fondateur du PF, le parti d'Edgar Lungu. Déjà en septembre dernier, il avait été mis en garde contre son habitude de faire le footing le week-end avec des membres de son parti. La police l'accusait de transformer cette séance sportive en activisme politique. Élu en 2015, Edgar Lungu a été battu en 2021 par son opposant de longue date, Akainde Ichilema.
L'invité.
Les parlementaires africains se sont réunis du 25 au 26 octobre 2023 à Nairobi au Kenya pour une rencontre clé sur les flux financiers illicites. Cette réunion continentale permet d'offrir une plateforme aux législateurs des pays africains de renforcer leur capacité à lutter contre les flux financiers illicites et les injustices fiscales sur le continent. Pour en parler, nous recevons comme invité Dédé Moupassa. Il s'entretient avec Blaise Chindani.
Bonjour, honorable Dédé Moupassa.
Bonjour.
Vous êtes député national et avez fait partie de la délégation des parlementaires congolais qui ont pris part à cette rencontre clé qui s'est tenue à Nairobi sur le flux financier illicite. Que peut-on retenir de ce forum?
Oui, merci. Je vais d'abord vous remercier comme Radio Kapi, média très important en République démocratique du Congo, pour faire le relais des assises de Nairobi. Nous sommes un réseau de parlementaires qui s'occupent de fiscalité, pas d'une manière générale, mais surtout basé sur le flux financier illicite et pas n'importe lequel, mais celui qui se plonge dans l'exploitation, dans l'opérationnalité de ressources naturelles. En RDC, il n'y a que 2 ans que nous avons adhéré et nous avons participé dans beaucoup de séances déjà en Tunisie, en Afrique du Sud, en Zambie. Et tout tourne autour de flux illicites pour voir comment le Parlement peut aider le gouvernement, peut aider le pays, l'État, avec des lois, avec des contrôles qu'il faut pour avoir la traçabilité, pour permettre qu'on puisse dénicher tout ce qui est illicite.
Voilà. Selon nos sources, l'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de dollars d'évasion fiscale, ce qui constitue un frein au développement de l'Afrique. Pensez-vous que ce genre de forum sera à même de réduire les flux financiers illicites en Afrique?
Exactement, c'est ça notre objet même. Nous travaillons pour cela. Et le faire, c'est le constat qu'un groupe de parlementaires et la société civile s'est réunis et ils ont réfléchi, ils ont vu que c'était grave quand même dans leurs études qu'ils ont publiées. Parmi ces études, il y a la conférence de haut niveau qui a déniché cela aussi. Il y a beaucoup de ONG en international comme en local qui ont découvert toutes ces choses. Alors c'est comme ça que nous prenons la responsabilité en tant que parlementaires au niveau de la région, au niveau de l'Afrique, pour réfléchir, pour voir comment nous pouvons améliorer la qualité de nos structures de lois et règlements au pays pour mettre fin à cela. D'abord dénicher, condamner et mettre fin ou récupérer, pourquoi pas, pour augmenter le flux au niveau financier, au niveau des impôts dans nos pays respectifs.
Mais ne nous voilons pas la face, pour bon nombre d'Africains, il y a dans certains pays africains des systèmes fiscaux qui favorisent ces flux du fait de la mauvaise gouvernance des dirigeants de ces pays. Êtes-vous d'accord avec eux?
Oui, c'est cela. Parce que les multinationales, d'abord multinationales, qui sont-ils? Si vous posez la question des multinationales, à chaque fois une multinationale est touchée, c'est la voix d'un État qui sort. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre multinationales et les États. Et les États sont gérés par des politiques, d'une manière générale. Et quand vous découvrez, vous analysez nos entreprises qui viennent ici, que ce soit dans le mine, que ce soit dans la forêt, vous allez ou même dans le pétrole, vous allez voir que derrière ça, ils impliquent les locaux avec un pourcentage pour travailler. Mais c'est pas mauvais, ça peut être bon, mais nous disons respecter les taxes dans ces pays-là.
Nous terminons par la République démocratique du Congo, notre pays. Dites-nous, honorables députés, quel rôle peut jouer les parlements pour la mise en œuvre des systèmes fiscaux qui permettent de limiter les fuites des ressources publiques et de renforcer la mobilisation des ressources naturelles?
Oui, il faut identifier qui sont ces opérateurs. À la mise en place des entreprises ici, c'est pas dérisoire. Il faut que les gens qui participent soient connus et identifiés. Il faut que le financement, les capitaux qu'on met en place pour démarrer ces entreprises soient connus dès leur origine. Mais pour le cas du Congo, parce que vous avez dit en RDC, effectivement, nous ne sommes pas épargnés. Mais Dieu merci, de l'autre côté, il y a beaucoup d'efforts beaucoup, beaucoup d'efforts ont été fournis en termes de lois, de mise en place. Nous avons l'UTIE qui fonctionne dans notre pays. Nous avons IGF qui fait le contrôle. Nous avons, au-delà de l'IGF, il y a la CNAREF. C'est ce que je cherchais comme mot. La CNAREF qui cherche à découvrir les flux financiers ou tout le mouvement des capitaux qui se passe au pays. Ça, c'est déjà la mise en place des structures. Il y a l'agence de lutte contre la corruption. Il y a les antifraudes. Tout ça, c'est ça, amalgame qui vient en appui législative ou des lois ou des règlements qui met frein à ces flux. Mais ça ne suffit pas de mettre toutes ces lois. Maintenant, il faut les contrôler. Qui fait quoi et comment on les fait? Donc, je pense qu'il faut s'y atteler. Et il y a quelques avancées en termes de règlements et lois. Mais maintenant, dans l'opérationnalité, il y a toujours l'argent qui échappe à la République où tout le monde doit s'impliquer. Mais nous, parlementaires, déjà, avec l'expérience qu'on a des autres, on a tiré, je pense très bientôt, on va faire un rapport pour le rendre public de notre réseau parlementaire.
Dédé Moupassa, député national élu d'Idiofa, merci beaucoup.
Merci, merci, merci.